Mètre à mètre. Ouais. D'accord. C'est bien, c'est pareil. Une seconde, je vais vous dire aussi. Voilà. Ceux qui ont l'édition Hartmann, c'est Koufra Abdalet. D'accord, un peu bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé que je fasse un partage d'écran avec le texte du Maral? Faites-moi signe. D'accord, alors.
C'est quoi le Dibora le juste?
C'est Oumi Shilamad, Midmi Kamocha Baelim,
Merci.
Baelmim. D'accord. Donc, on avait vu la semaine dernière, on avait parlé du fait que, en fait, Dieu, il ne réagit pas parce qu'il ne réagit pas parce qu'il doit se retenir, mais parce qu'en fait, on va prendre juste un petit peu avant, en fait. On va prendre quelques lignes avant. On avait dit que Hachem, il réagit pas, il se tait parce qu'en fait, pour réagir, la réaction, c'est le syndrome de la personne qui est atteinte. Celui qui est atteint, il réagit. Je réagis. Je suis pas. Il se passe quelque chose en dehors de moi qui m'atteint moi-même, et en conséquence, je réagis. Or, Dieu, il est impossible de l'atteindre, donc il ne réagit pas. Alors, pourquoi est-ce que... Et donc ça, c'est numéro 1. Mais numéro 2, c'est qu'il y a une question fondamentale. Cette question, Rabbi Moshe Cordovero, dans Tomer Dvora, il en parle. Il dit, Arei Kanfei Inavera, l'homme, il a pas de force propre. Toute la force que l'homme il a, c'est une force qui lui vient de Dieu. Dieu il me donne la force en fait de faire des avérotes. Et le Rama qui dit ça, c'est le sens profond de Mikel Kamocha Nosé Avon. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait la avéra, on demande à Dieu de nous donner la force de faire une avéra. Donc on devrait mourir sur le champ. On devrait être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais Hachem, il est Nosé Avon. Alors ici, ça c'est une des midot de la rachamim, c'est la miséricorde, c'est les 13 midot. Mais envers un rachat comme Titus, il n'y a aucune raison d'être miséricordieux. Donc, au moment où il veut faire la Avera, il devrait perdre tout droit à la vie. Il dit non. Parce que, en fait, s'il y a un rachat qui est en train de faire une Avera et je le tue tout de suite, je lui ai pris la vie, mais je ne l'ai pas détruit. Or, en fait, quand Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on le tue tout de suite, alors le reste du paiement, il devrait être là dans le Olam Haba. Si on le tue, alors il n'a pas payé sa dette parce qu'il est mort, mais il a encore une dette à payer, donc le reste de la dette, il sera à payer bah, Olam Haba. Et ça, dit-il, c'est une punition partagée. C'est une punition partagée. Une punition partagée, c'est pas très fort. Une punition en deux temps, c'est pas très fort. Il y a une Gemara dans Svarim que j'ai étudié il y a quelques jours qui dit qu'on n'a pas trouvé, donc c'est qu'il y avait des korbanot, on jetait le sang sur le Mizbéach, des fois c'était en haut du Mizbéach et des fois c'était en bas du Mizbéach. Et la Gemara elle dit on n'a pas trouvé un cas où on jetait une partie du sang en haut et une partie du sang en bas. Soit tu fais tout d'une certaine manière, soit tu le fais pas. Ici aussi, Titus c'est un grand rachat. Le tuer simplement, ça ne suffisait pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste, il est mort, mais c'est pas une punition nécessairement. Et donc, il aurait fallu compléter sa punition dans le Guéhinnom, et du coup, sa punition, elle n'aurait pas été entière. C'est pour ça.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, c'est une punition en deux temps. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez le maral, ce qui est partagé, c'est pas complet. C'est pas une punition complète. C'est un peu ici, c'est un peu là-bas, c'est une punition en patchwork. C'est du patchwork. Mais du coup, il n'aura pas tout payé au même endroit. Donc en fait, ça fait que la punition, elle n'est pas entière. C'est deux punitions. Non. Non. Justement, des fois, on paye sur Terre pour moins payer le Olam Haba. Ça, c'est le chidouche, que nous, Hachem, il nous fait un chesed qu'on paye sur Terre pour moins payer dans le Olam Haba. Mais, Titus. Oui. Il a été puni, il a été détruit. Ouais. Non, ben en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pas puni sur Terre. Il n'a pas été puni. Il n'a pas été puni. On l'a gardé en vie jusqu'à qu'il meure. C'est qu'en fait, la punition, en fait, Titus, s'il s'était tué, il aurait vécu une longue vie et il serait mort, il serait arrivé au Guéhinnom. Si Titus, il avait fermé sa bouche sur la mer, il serait resté en vie. Et à sa mort, il aurait eu une punition entière au Guéhinnom. Donc en fait, l'histoire du moustique, ce n'était pas la punition pour le Khorban Beth Amikdash.
Non, c'est bien. C'est intéressant, par rapport à la mer.
Voilà. C'est ça. Donc en fait, dit-il, les mots du Maharal, c'est les Fikar Hashem Yitbarach lo ba'alav bedin ba'olam hazeh o meshalem lo dina o begeinam achar moto. La vie d'être nafsho. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, il ne voulait pas le punir dans ce monde-ci du tout. Pour le Khurban Beth Amikdash, la punition, elle est dans l'Olam Haba. La punition qu'on va voir après, toute l'histoire du moustique qui lui a rongé le cerveau, c'était pour autre chose. C'est quoi? C'est qu'en fait, sur la mer, Hachem, il a provoqué. Titus, il a dit une phrase, et cette phrase-là, il a payé. Ce défi envers Hachem, que de toute façon, Dieu, il peut me détruire, il peut m'atteindre que sur mer. Ce défi envers Hachem, ça, il l'a payé dans ce monde-ci. Mais le Guéhinnom, la punition qu'il méritait pour le Khourban, ça, il l'a eu qu'après sa mort. Ça n'a pas du tout été payé de son vivant. Donc ça, c'est Mika Bocha Chassinka. Chassinka, c'est imperturbable. Dieu, il est imperturbable. Maintenant, il y en a un qui dit, on apprend la même chose, mais Mika Mocha Baelim, qui est comme toi parmi les puissants, c'est qui Baelim? C'est Baelmim chez les muets, parmi les muets. Qui est comme toi parmi les muets? Donc en fait, il y a Elim, c'est les dieux, et on transcrit ça, il y a une translation de Elim à Elmim. On décale, il y a une espèce de glissement du langage, on passe de puissant à muet. Et les Chorans, on ne voit pas le rapport. Puissant, c'est puissant, muet, c'est muet. Il dit c'est quelque chose d'assez incroyable. Pourquoi? Parce que si moi, il y a quelqu'un qui m'insulte, alors il va se passer deux choses. Soit je vais éclater, je vais exploser, je vais lui exploser à la figure. Ou bien, non, peut-être que je vais apprendre à retenir mes nerfs, je vais apprendre à me. Je vais apprendre à contenir ma colère. Mais en fait, je serai furieux. Et en fait, j'aurai envie de lui sauter à la gorge. Et il faudra toutes mes forces pour me retenir. Ça veut pas. Donc en fait, c'est pas que je ne réagis pas. Il y a d'une part, je réagis, et d'autre part, je retiens cette réaction. Mais en fait, est-ce que l'autre, quand il m'a insulté, il a agi sur moi? Oui. Et je dois utiliser toute ma force pour pas réagir. Alors que Hachem, il n'est pas comme ça. Comme un muet. Le muet, il peut pas, si je l'insulte, il ne pourra pas m'insulter en retour. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de parole. Donc, pour ne pas me répondre, il n'a pas besoin d'effort, le muet. Le muet, il n'a pas besoin d'effort pour me répondre. Dieu non plus, il n'a pas besoin d'effort. C'est comme ça. Le muet, il ne me répond pas parce que c'est comme ça. Et Dieu, il ne me répond pas quand je l'insulte, Khalila, parce que c'est comme ça. C'est dans la nature des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, elle est comme ça. Il aime, c'est Milachon Alimut. Ça, c'est, il fait remarquer une chose. Adam Alim, c'est Gavra Alima dans l'Agmara, c'est un homme violent, c'est un homme puissant. C'est un homme puissant à tel point qu'il est capable de violence. C'est un homme puissant, Alim. Et il aime, c'est le muet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le muet, on l'appelle Alim? Parce qu'en fait, la parole, elle lui est difficile. Parce qu'un muet, il est comme une pierre. Je parle à quelqu'un, je finirai par le faire réagir. C'est quasiment impossible d'aller voir un homme, de commencer à lui parler et pas de lui soutirer ne serait-ce qu'une phrase. Ouais. Quelque part, même si je vais chez un moine qui a fait vœu de se taire, si je lui casse l'épée suffisamment, il finira par parler. Alors que le muet, lui faire sortir une parole, c'est dur comme la pierre. Et Dieu, on l'appelle Kel. Kel, c'est Milachon, Frozek Vetokef. Il ramène un passouk. Les puissants Vet et les Aretz Lakar, il a pris les puissants de la terre. Kel, c'est Milachon, Chazak Vetakif. Donc en fait, c'est une dureté. Le muet, il est dur au langage. Lui soutirer une parole, c'est comme soutirer une parole à une pierre. Dieu aussi, il est comme ça. Il est tellement fort que quand on lui parle, c'est comme si on ne lui avait pas parlé. Donc c'est ça l'idée de Mikamocha Baelim, Milachon Ilmim. Ouais. C'est-à-dire que le muet, il ne parle pas parce que la parole, parce que même que tu lui parles, il ne te répond pas. Mais ça, c'est parce qu'il ne peut pas. Et Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Parce qu'en fait, il est puissant. Il est puissant, il est dur. Et donc, en fait, ta parole, elle n'a pas atteint. Ta parole, elle n'a pas atteint. Et donc, c'est pour ça que Dieu, il est Mikamocha Baelim. Que Dieu, quand on lui parle, c'est comme si j'avais parlé à une pierre. La pierre, elle t'écoute pas et Dieu, il t'écoute pas non plus nécessairement. En tout cas, pas quand tu l'insultes. Il y a toute une grande discussion dans les Mefarshim. Comment se fait-il que Dieu, il nous réponde alors que Dieu, il est immuable? Moi, je prie et Dieu, il me répond, mais Dieu, il réagit pas, Dieu, il est immuable. Mais fondamentalement, Dieu ne réagit pas. Pourquoi est-ce qu'il réagit quand nous on fait une fila? C'est une grande question. Mais fondamentalement, Dieu lui-même, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'on peut. Ben, quand je parle, c'est qu'il ne s'est rien passé. Quand je parle à quelqu'un, j'agis sur la personne. On peut influencer quelqu'un par la parole. C'est-à-dire que parler de l'un à l'autre, c'est avoir une influence sur quelqu'un. Qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, parler. C'est que j'ai un impact sur la personne. C'est-à-dire que parler, c'est que je me projette moi-même vers l'autre. Et l'autre, il est atteint par cette projection que je fais de moi-même. Et donc, il réagit, en bien ou en mal. Mais moi, je ne peux pas me projeter chez Dieu. Dieu, il est intact, il est immuable. Il ne change pas Dieu. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Donc, en fait, quand je parle, il ne réagit pas. Alors, comment ça se fait qu'il réagit à notre filote? Ça, c'est une très grande discussion qui commence chez le Rambam, déjà, chez le Ramban, etc. Comment ça se fait que Dieu réagit à ce qu'on fait? Mais ce n'est pas notre propos. Mais fondamentalement, Dieu ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'atteint pas lui-même. On ne l'atteint pas lui-même. Il ne nous punit pas parce qu'on l'a atteint. Quand on a fait une Avera, on n'est puni pas parce qu'on a fait quelque chose à Hachem. On ne lui a rien fait. Mais les lois de la justice, elles veulent que celui qui a fait quelque chose de mal, il soit puni. Pas parce qu'on lui a fait du mal à Hachem, mais parce que c'est la loi. D'accord. Donc c'est ça l'idée de Mikamocha Baelim, qu'en fait, il y a un homme qui peut arriver et qui peut proférer des insultes au plus haut degré, Dieu ne réagit pas. Dieu ne réagit pas. Alors que nous, pour un millième de ça, on est livide, on est pâle de rage. Alors comment ça se fait? Comment c'est possible? Donc on a dit, c'est ça la chose. La chose, elle est que Dieu, c'est comme une pierre. Quand on lui parle, on ne le touche pas. Et donc il n'y a pas de parole qui sort d'une pierre, il n'y a pas de parole qui sort d'Hachem parce qu'on lui a parlé.
C'est
Non.
quoi cette
Oui?
notion qu'on trouve de l'oechezik la'adapo, par exemple? On voit qu'il y a un casse d'Hachem, qu'il y a quand même une réaction face à certaines avérotes.
Alors, l'idée qui est développée dans les Mefarshim, c'est l'idée suivante. Si on part dans cette digression, l'idée, c'est l'idée suivante. C'est l'idée selon laquelle, quand on parle du casse d'Hachem, le casse d'Hachem, il n'est pas propre à Dieu lui-même. C'est qu'en fait, Nous, on est dans le monde et Dieu, il envoie son influence dans le monde. Et selon notre position, on ressent son influence différemment. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand on est, imaginons une lumière qui touche un spectre. On a une lumière blanche qui rencontre un spectre. Le spectre, il va séparer les lumières. Donc, on aura une zone verte, une zone bleue, une zone jaune. Et selon que là où on va se placer, on sera exposé à une différente couleur. En fait, disent les quadmonimes, Dieu, il envoie sa lumière sur le monde. Et nous, on perçoit sa lumière comme s'il y avait un spectre, comme s'il y avait un prisme. Sa lumière, c'est une lumière blanche, mais nous, on perçoit des fois le vert, des fois le bleu, des fois le rouge. Et quand on fait des averot, alors on se place là où la lumière est rouge. C'est une question, non pas de. On ne parle pas de Hachem lui-même, on parle de ce qu'on appelle sa anaga, l'attitude qu'il a envers le monde, et cette attitude, elle est dépendante principalement de comment on se place nous vis-à-vis de Dieu. Et donc, en fait, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un système, c'est comme s'il y a un système, et nous, on se place dans différents secteurs. Et il y a dans ces anagotes-là, la anaga du chaos, elle est limitée, bien qu'il y a un comportement, une attitude du chaos, que si on se comporte mal, on s'expose, on se présente à sa colère, mais la colère, cette anaga, cette attitude de colère, elle est limitée. Mais encore une fois, on ne parle pas de Hachem lui-même, on parle de l'attitude qu'il a envers nous. Le Ramchal, il précise dans plusieurs endroits qu'on connaît de Dieu, non pas lui-même, mais on connaît l'attitude qu'il a envers le monde. Donc tout ce qu'on va parler, le Herzik, la Hadapo, etc., on va parler pas de Hachem lui-même, mais d'attitude fondamentale qu'il a envers le monde. Mais Dieu lui-même ne réagit pas. D'accord.
Donc c'est la
Ouais.
même chose quand on dit qu'Hacham est passé de Midat Rachamim à Midat Hadin, en fait. C'est.
Oui, c'est des attitudes, en fait. C'est des attitudes. C'est
D'accord.
des anagotes. Le langage des quadmonimes, c'est des anagotes.
Qui c'est qui développe ça, le Ramban?
Le Ramban, il parle un petit peu de ça à mots couverts. Les premiers qui développent ça en long, en large, en travers, que j'ai vraiment vu, c'est le Maharal dans Gvorot Hashem. Il développe ça de manière assez extensive. Et le Ramchal, dans plusieurs endroits, il développe cette idée aussi. Mais c'est une idée qui a l'air d'être assez consensuelle. C'est une idée qui n'est pas tellement polémique. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde reconnaît que Dieu, il est le plus distant et qu'on ne peut rien en connaître. Mais Dieu, il est présent. Dieu, il est inconnaissable, insaisissable. Mais malgré tout, Dieu, il est présent dans le monde. C'est-à-dire que Dieu, il envoie une présence. C'est de ça qu'on parle. Mais c'est très longue discussion, donc on va pas.
Marche.
Voilà. Non, c'est une discussion. Ah non.
Non, non. Et comme le
C'est ce qu'on perçoit. C'est justement l'idée, c'est qu'en fait, l'anagote d'Hachem, le changement d'anagote, au fond, on le perçoit comme tel. Oui. Oui. Non. C'est une émanation. C'est huit. C'est ce qu'on appelle est-il, mikvodo, est-il, meoro. C'est une émanation. D'accord. Alors, si on regarde en arrière dans tout le Ma'amar Chazal, il y a le Ma'amar Chazal de Titus, à la fin, il rajoute, il ramène quelque chose, il ramène la chose suivante. Que quoi? D'où c'est que, la Gemara elle dit, d'où c'est que Titus, il a pris tous ses kélims, tous les kélims du Beth-Amigdash et les amenés à Rome pour s'enorgueillir? Parce qu'il y a un passage qui dit comme ça. Et ainsi j'ai vu des réchaïms enterrés, et ils sont venus d'un endroit saint en allant, et ils ont été oubliés dans la ville où ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, Ubechen Reishti réchaïm Kevourim, enterrés, et ils ont été oubliés de leur ville. Et Chazal, ils disent, non, ne lis pas enterrés, mais Kvoutsim, rassemblés. Ne lis pas oublié, mais lis Ishtabrou, ils se sont loués. Donc en fait, la Gemara, elle procède en fait à une inversion totale du sens du mot. Kvurim, c'est enterré, kvutzim, c'est rassemblé. C'est pas exactement la même chose du tout. Ishtakru, ils ont été oubliés. Ishtabachru, c'est qu'ils ont été loués. Ça, c'est exactement l'inverse. Donc, il dit le Maharal. Comment est-ce que Chazal, ils ont fait? D'où ça vient? Pourquoi, à quoi Chazal, ils jouent? Ils font des jeux de mots, on entend un mot, on en dit un autre à la place. À quoi on joue? Ça n'a pas l'air sérieux. Et pourtant, un grand yesod dans notre vie, c'est que Chazal, c'est des gens sérieux. Chazal, c'est des gens sérieux. Il y a pas, c'est pas des jeux de mots, c'est la réalité, c'est la vérité. Alors, c'est quoi cette histoire qu'on passe de oh, j'ai trouvé des gens enterrés? Non, ne lis pas enterrés, mais rassemblés. Ne dis pas que ces gens-là, ils ont été oubliés, mais dis ces gens-là, ils se sont loués. Ouais. Parce que, il dit, c'est quoi le passouk? J'ai vu des gens enterrés et d'un endroit saint, Yehalehu, ils partiront. D'un endroit saint, ils sont en train de partir. Mais s'ils sont enterrés, en général, les morts ne se promènent pas. Donc, si on nous dit que Yehalehu, c'est donc en fait ils ne sont pas encore enterrés. Ouais. Maintenant, ils sont en train de partir. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent partir d'un endroit sain s'ils sont enterrés? Donc, il dit en fait comme ça. C'est qu'en fait, il y a eu deux moments. Il y a eu le moment même et il y a eu le futur. Quand on était au moment du Khurban HaBayit, ces gens-là, ils n'étaient pas enterrés, ils s'étaient rassemblés. Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? On se rassemble pour faire un triomphe. C'est quoi un triomphe? C'est le moyen d'obtenir des louanges. Et à cause de ça, donc ces gens-là, ils ont fait un triomphe. Ouais, comme voilà, ceux qui en connaissent, voilà, les lauriers de César dans Astérix, ouais, dans certains autres. Les Romains, quand ils avaient gagné une campagne militaire, le général, il revenait, il avait un triomphe. Et donc, à l'époque, Titus, il s'était rassemblé avec les autres pour triompher. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il était enterré. La Gemara, elle dit, « En osim zichronot la tzadikim, on ne fait pas de mausolée pour les tzadikim, divrei même zichronam. » Leurs paroles, c'est leur souvenir. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle est enterrée sous terre. Un zikaron, c'est quelque chose qui émerge de la terre et qui me rappelle ça. Donc en fait, là où quelqu'un est enterré, il faut faire un zikaron. On a une équation. Enterrement, dit oubli. Amet mishtakiach minalev. Le mort, c'est qu'il est oublié. On l'a enterré, il n'est plus de ce monde. Donc c'est pour ça que les gens, ils font des zikronot, ils font des mausolées pour qu'on s'en rappelle. Mais l'enterrement, c'est l'oubli. Donc, en fait, sur le moment où ils se sont rassemblés en partant d'Yerushalayim pour faire un triomphe, mais en fin de compte, avec du recul, qu'est-ce qu'on dit? Ben, en fait, ils étaient enterrés et on les a oubliés. C'est ça le double sens. Ils sont partis d'un Makom Kadosh et ils se sont rassemblés pour avoir une postérité. Et en fin de compte, ils ont été enterrés et ils ont été oubliés. C'est ça le double sens du passouk, en fait. Avec du recul, leur rassemblement joue un enterrement. Là où ils pensaient échapper à la mortalité, moi je vois qu'ils ont été enterrés. Là où ils pensaient avoir un héritage, une postérité, je ne vois que de l'oubli. Mais ça avec du recul. Mais sur le coup, quand ils partaient, c'était pas ça la lecture que les gens ils avaient des choses. Nous, on voit ce rassemblement comme un enterrement. On voit ces louanges, comme un oubli. Mais sur le coup, les gens ne voyaient pas ça comme ça. Donc en fait, dans le passouk qui a le recul, parce que la Torah elle a du recul, on nous dit que ces gens-là, ils étaient enterrés, on nous dit qu'ils étaient oubliés. Mais il nous met un remèze que c'était en partant, que ces gens-là, ils n'étaient pas encore enterrés. Ils se pensaient rassemblés, ils pensaient qu'ils avaient une postérité. Mais non, on te dit avec du recul, ce n'est pas le cas. Et c'est ça que Chazal nous disent. C'est qu'en fait, le passouk qui nous fait une lecture profonde d'une réalité qui n'était pas perçue comme telle à l'époque. C'est souvent comme ça que sur le moment, les gens ils pensent, ils ont une certaine lecture de la situation. Et avec du recul, on prend ces mêmes éléments et on se rend compte qu'ils ont été mal interprétés. Et c'est ça que Chachamim y font. Le passou qui vient nous dévoiler une réalité profonde, Mais la réalité superficielle, c'est l'inverse. La réalité superficielle, c'est que ces gens-là, ils n'étaient pas enterrés, ils étaient rassemblés. La réalité, c'est qu'ils se louaient. Il y avait un triomphe. Et Chachamim, ils nous disent, et la passion qui nous dit, mais la réalité profonde, c'est qu'ils ont été oubliés. Et donc, c'est ça l'histoire du triomphe de Titus. Ouais.
Leur oubli, c'est quoi? C'est le fait que Rome était détruite. Enfin, que l'Empire romain était détruit, c'est ça?
Oui, qu'au
Sur le long
fond, tout
terme.
le monde s'en fiche, en fait. Alors que c'est intéressant quand même que si on regarde, il y a eu la guerre des Gaules, c'était un événement historique quelque part, même pas aussi signifiant que la prise de Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu de culture. La Gaule, c'était un lieu des barbares. Les deux guerres ont été très dures et très âpres. Il y en a une qu'on retient, et il y a un nom qu'on retient, et il y a des noms qu'on ne retient pas du tout. La traversée du Rubicon, on s'en rappelle. La guerre des Gaules, on s'en rappelle. Ouais, alors que la prise de Jérusalem, ça a été oublié. Ça a été oublié pourquoi? Parce que justement, c'est une punition. La Torah, elle te dit, tu penses avoir une postérité avec la destruction du temple, tu n'auras que l'oubli. Ça, c'est le concept de Shem Rechaim Irkav. Le nom des Rechaim, il laisse pas de trace. Même que sur le coup, ils font des choses énormes, mais leur nom, il s'oublie. Shem Rechaim Irkav. D'accord. Oui, l'arc de Titus, il est perdu à Rome, il est là-bas, mais il n'y a que les Juifs qui savent où il est. Quelque part. Oui, parce que nous, c'est l'inverse, mais c'est plus que ça. Si on connaît tous l'histoire du. D'ailleurs, quand on parle de l'art de Titus, on connaît tous l'histoire du Rav Yosef Kahneman, le Pogneux Vitcherov, qui était une fois à Rome, après la guerre, et qui est allé devant l'arc de Titus et qui a proclamé: Mais Titus, tu croyais vraiment nous avoir vaincus? Voilà, nous, on est toujours là 2000 ans plus tard, et toi, tu n'es rien, tu n'es plus rien. Shem Rechaim Irkav, ils ont été oubliés, ces gens-là, ils ont été oubliés. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi l'oubli? C'est que leur action, fondamentalement, elle n'a pas laissé de trace. À un certain niveau. D'accord. Donc on dit que Hachem, quand il était sur la mer, il a remué la mer. Et là-dessus, Titus, il a réagi, il dit, non mais toi, Dieu, de toute façon, tu n'es fort que sur la mer. Pourquoi? Parce que tous les Rechaim, tu les as détruits sur la mer. Alors le Maharal, il dit, mais là, Titus, il a raison, c'est vrai. Tous les Rechaim, c'est comme ça que le derrière des Rechaim, il est d'habitude de coutume que les Rechaim, ils sont perdus en mer. Pourquoi? Il dit, parce que l'eau, c'est quelque chose de particulier. L'eau, ça laisse la matière, mais ça détruit, ça efface. Ça efface. C'est quoi effacer? Effacer, c'est. Je marque quelque chose. Je laisse une trace. L'eau, elle efface la trace. Ça veut dire encore une fois que le rachat, il essaye de tracer quelque chose dans le monde. Il veut faire l'histoire. Il veut faire l'histoire. Il fait une histoire. Et en fait, Dieu, il dit, mais ton histoire, elle est effacée. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit que c'est quoi le Sefer des Rechaim? Il y a trois Sfarim à Rosh Hashanah. Il y a le Sefer Shel Tzadikim, le Sefer Shel Benonim et le Sefer Shel Rechaim. C'est quoi le Sefer? Le Sefer des Rechaim, c'est Imachu mi Sefer. Le Sefer des Rechaim, c'est un livre qui est effacé. C'est quoi le livre des Rechaim? C'est qu'on a un homme, il fait des actions gigantesques et il est sûr qu'il a sa place dans un livre. J'ai ma place dans le grand livre de l'histoire avec un grand H. Et Dieu lui dit non. Tout ce que tu as fait, ça laisse pas de trace. La seule chose que je garde, c'est quoi? C'est Maaseim Shel Tzadikim. Les actions des Tzadikim, elles laissent des traces. Le rachat, il laisse pas de traces. Le rachat, il fait plein de choses dans le monde. Il fait la tour de Babel. Il fait les jardins de Babylone. Il fait des choses gigantesques. Il pense qu'il laisse une trace. Et en fait, ça laisse pas de trace. Le rachat, il est nimré, il est effacé. Comme on a dit au sujet du Dor HaMabul, ben, il marque à la Yekoum. C'est une civilisation qui a disparu sans laisser de traces. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme, il a un tselem, l'homme, il a une figure. Et parce qu'on a une figure humaine, Alors on peut faire des actions, on peut donner du sens aux choses, on peut donner une forme aux choses. Parce que je suis humain, je suis capable de donner une forme aux choses. Et Dieu, quand il efface par l'eau, il dit en fait, t'es pas un humain, t'as pas de figure humaine. Et puis, si t'as pas de figure humaine, tes actions ne laissent pas de traces. Et donc, Béhémeth, c'est comme ça que les Réchaïm, ils sont punis par l'eau généralement. Pourquoi? Parce que c'est une manière de dire que l'action du rachat, au fond, elle est insignifiante.
Le feu, il n'a pas cette même vertu que l'eau à ce niveau-là.
J'entends pas.
Le feu, il n'aurait pas cette même vertu de d'effacer complètement la trace.
Non, parce que le feu, il détruit, mais ce n'est pas la trace qui détruit, c'est le livre. Ce n'est pas qu'en fait, il y a quelque chose que je détruis. Je l'enlève. C'est ce qu'il y avait n'est plus. Alors que l'effacement, c'est que tout est toujours là. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Ça laisse l'eau, elle ramène tout à son état primordial. Le feu, il détruit. Le feu,
D'accord,
il
ok, je
détruit.
vois. Ça détruit, en fait, l'eau détruit la forme, en fait.
C'est ça.
Donc les éléments sont là, mais la forme disparaît.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le rachat, il pense être à Adam. Il pense être un homme avec un grand. Le Adam. Ouais, Ha Adam. Comme la Gemara a dit, Atem Pouim Adam. Vous, vous appelez des hommes. Et c'est ce qu'il pense être. Il pense être un homme avec une figure humaine. Et en fin de compte, on dit non. C'est effacé. Il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage humain. Il n'y a pas de trace. D'accord. Donc, en fait, mais ça, qu'elle dirait que c'était un appât. Hachem, il a provoqué Titus pour que Titus, il dise cette phrase-là. Et donc là, Hachem, il peut lui dire, OK, c'est pas une punition maintenant. C'est que je vais te prouver quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. Que la mer, c'est grandiose. La mer, c'est grand. C'est un endroit de danger. Mais moi, je vais t'envoyer quelque chose de tout petit qui va te détruire. C'est pas une punition tellement. C'est une preuve. C'est-à-dire qu'en fait, Titus y pensait quelque chose, et Hachem lui dit, je vais te prouver le contraire. Ce n'est pas une punition, c'est une preuve. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moustique qui lui est rentré dans la tête, et pendant 7 ans, il a rongé, il a parasité le cerveau de Titus. Pourquoi 7 ans? Parce que 7 ans, c'est. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parce que 7 ans, c'est le maximum des années. C'est quoi l'idée? C'est l'idée de la Shemitah. La Shemitah, c'est un cercle. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai. Merci beaucoup. Parce que 7 ans, en fait, mais 7 ans, c'est la Shemitah. C'est-à-dire que 7 ans, il n'y a pas plus que 7 ans. Au bout de 7 ans, on recommence un cycle. Comme dans la semaine, il n'y a pas plus que 7 jours. Dans les années, il n'y a pas plus que 7 ans. Donc, c'est le maximum des années. On voit aussi que la Gemara, elle dit qu'après le massacre de Béthar, il y avait tellement de sang que le sang des Harougué Béthar, il a suffi à engraisser les vignes pendant 7 ans. Ça veut dire que l'idée qu'il y a ici, c'est que l'histoire, quelque part, elle est cyclique. Il y a des épisodes de 7 ans. L'histoire, et ça s'est marqué dans les Mekoubalim, l'histoire, c'est plein de petits épisodes de 7 ans chacun. Et donc, 7 ans, c'est un cycle historique complet. 7 ans, c'est un cycle historique complet. Et on voit aussi que 7, ça a la malade d'être complet, comme il y a marqué. Un tzaddik qui tombe jusqu'à 7 fois. On voit que la multiplicité, le multiple, c'est le 7. Et dit le Maharal, c'est pas l'endroit d'expliquer ça. Mais donc, en tout cas, puisque l'idée de 7, c'est l'idée d'un cycle entier, ce moustique, il y a eu une partie de l'histoire, pendant tout un segment de l'histoire, ce moustique, il était à l'œuvre. Pendant 7 ans, il rongeait le cerveau. Alors, c'est quoi cette histoire d'un moustique qui vient et qui ronge le cerveau, qui parasite le cerveau? De quoi est-il question ici? Alors, dit le Maharal, Kvar amarnu lecha, c'était ce rachat, c'était le plus grand destructeur. Il n'y a aucun rachat qui a été jusqu'à percer la part retraite. Il perçait la part retraite. Il n'y a pas plus grand rachat que Titus. Titus a rachat. Le rachat par excellence, c'est Titus. Et c'est pour ça. Donc, le plus grand destructeur de l'histoire, c'était Titus. Et Mida Kenegan Mida, on l'a détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le moustique, il a détruit Mida Kenegan Mida? Parce qu'en fait, la destruction, c'est quoi? C'est quoi détruire? C'est prendre quelque chose qui est un et le diviser. Je prends un verre et je le brise. Je passe de l'unique, de l'uni au multiple. C'est ça, détruire. Toujours détruire, c'est prendre quelque chose qui est assemblé et le désassembler. Ça, c'est la destruction systématiquement. La destruction, c'est de prendre quelque chose qui est un et d'en faire quelque chose qui est double. Shlomo HaMelech, il dit, Yirei Hashem béni. Imeler, le passage qui est un peu comme ça, je vais vérifier une seconde. Veim shonim al titarev. Je massacre un peu le passage, je vais vérifier une seconde. D'accord? Quoi le passage? Yirei Hashem et Hashem béni ou meler, veim shonim al titarev. Donc Michelet, il dit, crains, mon fils, crains Dieu et le roi, mais avec les shonim, ne te mélange pas. C'est quoi les shonim? La Gemara dit, c'est ceux qui pensent qu'il y a Shnaïm. Ils pensent qu'il y a Hachem en haut et le roi en bas. Il y a une expression qui dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et rendez à César ce qui appartient à César. Ça veut dire qu'il y a une conception du monde où il n'y a pas d'unité. Il y a en haut et il y a en bas. Les choses, il n'y a pas de Hachem Echad, il n'y a pas de Ahdout dans le monde. Il y a plein de choses, il y a une multiplicité de choses. Et celui qui vient détruire, surtout qui vient détruire le Beth Amikdash, c'est celui qui dit qu'en fait, il n'y a pas de Ahdout dans le monde. Donc c'est quelqu'un que sa destruction, elle est fondamentale. Si je prends un verre, je le laisse tomber, je n'ai pas détruit le monde, j'ai détruit un verre. Mais celui qui vient détruire le Beth Amikdash, il affirme qu'il n'y a rien d'uni, il n'y a pas d'unité dans le monde. Donc en fait, c'est quelqu'un qui pousse la destruction à son paroxysme. Rien n'est entier, aucune chose n'est entière. Si le Beth Amikdash n'est pas entier, alors rien n'est entier. On pourrait peut-être utiliser le pasouk, Vaya Mishkan Echad. Le Mishkan, il est Echad. Le Beth Amikdash, il est unique, il est uni. Celui qui vient détruire, c'est celui qui affirme qu'il n'y a rien de cohérent dans le monde. Donc en fait, que rien ne marche. Il n'y a rien qui marche, rien n'est cohérent. Et donc, forcément, quelque part, je détruis tout. En puissance, détruire le Beth Amikdash, c'est dire que tout peut être détruit. Tout peut être séparé. Tout peut être séparé. Et donc, si on considère que la destruction, c'est passer de l'unique au multiple, c'est-à-dire au double, comme Chachamim nous disent, Miout Rabim. Shnaïm. Donc dit le Maharal, ça c'est pas le Maharal qui dit, c'est je voilà, je paraphrase, je périphrase. Donc il dit le Maharal, mais là on nous dit que ce moustique quand on l'a sorti, il était soit comme un oiseau sauvage qui pesait 2 slaïm, soit comme un gozal, soit comme un oisillon d'un an qui pesait 2 litrines, un poids de 2 litras. Il dit c'est ça l'histoire. Parce que ce moustique, son poids, c'était un poids double. Si c'était deux, pour signifier justement que ce moustique, il y avait un symbolisme. Ce moustique, son domaine, c'est le domaine justement du multiple. Le moustique, il est là pour séparer. C'est quoi l'idée? Et ça, c'est une idée qui revient souvent chez le Maharal. C'est que quand j'ai un, j'ai que un. C'est unique. Quand j'ai deux, c'est comme si j'ai deux pôles que tout oppose. J'ai deux extrémités. Or, tout oppose les extrémités. Tout oppose les extrémités. Donc, cette idée d'un moustique qui pèse 2 slaïms ou 2 litrines, ça vient exprimer justement que c'est ça. On est dans ce registre. On est dans le registre du double. On est dans le registre du multiple. On est dans le registre de la désunion, de la discorde, de l'impossibilité de l'harmonie. Ouais, donc c'est ça l'idée, dit-il. Et dit le Maharal, le deuxième jour de la création, on ne nous a pas dit Kitov. Pourquoi? Parce que le deuxième, il introduit un grand danger. Le deuxième, c'est un grand problème dans le monde. Parce que le deuxième, il est autre. Le premier, il est le premier. Le deuxième, il est autre. Il y a autre chose. Donc, l'autre, il nie la possibilité de l'harmonie. Parce qu'il y a moi et il y a un autre. C'est-à-dire qu'en fait, les philosophes modernes, ils posent la question, en français, on appelle ça la question de l'altérité et la question du vivre ensemble. Parce qu'en fait, l'autre, il m'interdit de vivre par définition. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est mon opposé. Sauf s'il y a une synthèse qui est possible. Il y a Abraham, il y a Yitzhak et il y a Yaakov. Les Avot, ils sont trois. Il n'y a pas deux Avot, il y a trois Avot. Parce que Yaakov, il est là justement pour établir une synthèse, pour rassembler Yitzhak et Abraham. Il vient nous exprimer qu'il y a Abraham et Yitzhak, ce n'est pas un autre. Yitzhak, il est différent, mais ce n'est pas un autre. Pourquoi? Parce que justement, il y a Yaakov qui réussit la synthèse. Mais le deuxième, tant qu'il est tout seul, il est autre. Et s'il est autre, eh ben, il y a la division, il y a la machloket par nécessité. Par définition. Donc, c'est pour ça que le deuxième jour, il n'y a pas Kitov. Pourquoi? Parce que justement, il y a la non-harmonie, il y a la division. Donc, il n'y a pas de Tov. Il n'y a pas de Tov. Il n'y a pas de Tov. Pourquoi? Parce que le deuxième, c'est l'autre. Et c'est-à-dire que quelque part, il y a la fameuse phrase de Sartre, l'enfer, c'est l'autre. C'est les autres. Et cette phrase, nous dit le Maharal, elle est on ne peut plus vrai. Parce que l'autre, il m'empêche de vivre. Sauf s'il y a une hardoute. Sauf s'il y a une hardoute. Donc en fait, le concept du deux, ouais, c'est un concept qui est extrêmement problématique. C'est un concept qui est extrêmement problématique. Et donc, c'est le concept, le deux, le double, c'est la destruction. Le signe du deux, c'est le signe de la destruction. Et c'est très paradoxal parce que quelque part, non, on va pas rentrer là-dedans, mais le double, c'est la destruction. L'autre, c'est la destruction. L'autre, c'est la destruction. Et donc, le deuxième jour, il n'est pas Kitov. Pourquoi? D'ailleurs, c'est le jour où on doit distinguer. Il y a le jour et la nuit. Il y a l'obscurité et la lumière. Donc, il y a des antagonismes qui se créent. Il y a une avdala, il y a un antagonisme. Et donc, on nous dit aussi que ce tzipor, ce yitush, son action, c'est une action de séparation, de dissociation. Ouais. Qu'en fait, il a été puni mida keneged mida. Qu'en fait, celui qui va introduire, en fait, l'idée, elle est comme ça. Il y a des gens, ils pensent que le nihilisme, c'est possible. On peut dire, rien n'a de sens dans le monde. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Hachem Echad. Et moi, je continue à vivre. Je peux vivre ma vie parce que je m'en fiche. Je supporte cette dualité-là. Un jour, je suis comme ci, l'autre jour, je suis comme ça. Il n'y a pas de hardout dans le monde. On peut vivre comme ça. Qu'est-ce que je m'en fiche de savoir s'il y a un Dieu? Ça, c'était la démarche de Titus. Titus, il disait, au fond, ça m'arrange bien. Au fond, ça m'arrange bien que rien n'ait de sens, que rien n'ait de cohérence. Ça m'arrange bien. Et Hachem, il lui dit, mais celui qui vit comme ça, il meurt. Son cerveau, il finit par être coupé en mille miettes. C'est une division. C'est une division un peu comme dans. Voilà, je m'excuse, mais c'est un peu comme dans Charlie et l'ascenseur de verre, où il y a des divisions, où les gens, ils sont divisés en eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent penser, un jour, je suis comme ci, demain, je serai comme ça, aujourd'hui, pas. Oui, on peut être bipolaire, on peut faire ce qu'on veut de la vie. On peut faire ce qu'on veut de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'être sérieux, je suis sérieux. Demain, je ferai autre chose. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de cohérence dans le monde. Il n'y a que mes envies, quelque part. Et mes envies, elles sont multiples. J'ai vu une fois, il y a un très beau Mahamar de Rav Pikus qui dit que sur Shavuot, d'ailleurs, que Rav Yosef, on nous dit que Rav Yosef, il faisait une séouda à Shavuot parce qu'il dit, si ce n'était ce jour-là, hein, mais alors j'aurais pas été remarquable. Kama Yosef et Kabe Shuka. Combien de Yosef il y a dans le marché? Alors on comprend que la Torah, c'est le pshat pashut, c'est que grâce à la Torah, Rav Yosef, c'est Rav Yosef. Sinon, ça aurait été Yosef encore un, comme il y en a deux dans la ville. Rav Pinkus, il dit non, la Torah, elle m'a harmonisé. Sinon, on a plein d'envies qui nous tirent dans toutes les directions. La Torah, elle prend toutes ces forces-là, elle les rassemble dans un seul but. Il loulait la Torah, Kama Yosef Ika Beshuka, j'aurais été éparpillé. La Torah, elle rassemble, le Beth Amikdash, il harmonise. Titus, il ne voulait pas de cette harmonie-là, il voulait faire ce qu'il veut. Ah, c'est pas cohérent, je m'en fiche. Hachem lui envoie un message. Cette incohérence, elle ne te permet pas de continuer à vivre. Tu seras tellement écartelé que même ton cerveau, il va exploser quelque part. Ton cerveau, il va se diviser. Il va se couper en petits morceaux. Et dit le Maharal, il continue. Il dit, on nous dit que le Hidouche, il était comme un Tzipor-Dror, comme un oiseau, comme un oisillon. C'est-à-dire qu'en fait, le tzipor-dror, c'est un tzipor-dror, quelque chose d'assez compact. Un oiseau, c'est compact. C'est une chose, mais qui est double. Ça veut dire que sa dualité, elle était absolue. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, pour survivre, il a besoin d'avoir quelque chose qui le maintient en place. Quelqu'un qui n'a rien qui le maintient en place, c'est un fou. Quelque chose qui a rien pour le centrer, il est fou. Même la personne la plus éparpillée, quelque part, elle a une identité. Mais une dualité absolue, c'est-à-dire qu'une dualité qui est totale, elle finit par tuer la personne. On devient fou et on meurt. Donc en fait, on a un tzipor-dror qui est double. On a une dualité totale. Titus y pensait que ce n'est pas grave d'être duel, d'être multiple. Hachem lui a dit, je vais t'envoyer une chose qui est absolument double et tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes, elles sont multiples, mais elles gardent une certaine identité. Mais si tu es absolument multiple, alors tu es éparpillé et tu meurs. Si tu t'éparpilles, tu meurs. Et donc, c'est ça l'idée de cet oiseau unique ou de... Donc, on a un moustique qui a le poids d'un seul oiseau. On ne dit pas qu'il pèse le poids de deux oiseaux, trois oiseaux. Non. Il pèse le poids d'un oiseau qui est double, qui est duel. Donc, c'est l'idée, en fait, d'une dualité absolue. Et cette dualité absolue, elle est intenable. On est littéralement écartelé. Si on n'a rien pour nous centrer, comme les thérapeutes aujourd'hui disent, faut se centrer. Si on n'a rien pour se centrer, alors nos volontés, elles vont nous tirer dans toutes les directions jusqu'à qu'on explose. Et donc, c'était ça le symbolisme du moustique. C'est ça le symbolisme du moustique. Et si on dit que c'est un oisillon d'un an, alors il a un an. Donc, on est vraiment, c'est une seule chose qui est double. C'est vraiment une seule chose qui est double. Donc, ça vient signifier que c'est une dualité sans concession. Et c'est quoi la conséquence? Tu meurs. Ça, c'est un grand moussard. On ne peut pas être tout le monde à la fois. On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être tout le monde. On ne peut pas être tout le monde. On ne peut pas être tout le monde et on ne peut pas être partout. Et si on se perd, alors on meurt quelque part. On devient fou et en fin de compte, on meurt. C'est important aussi, si on sort du domaine de la Marshava, mais pour parler de moussard. C'est quelque chose de très important en fait. Il faut savoir qui on est. Rabbi Israël Salanter, il dit, la première mitzvah de la Torah, c'est connais-toi, sache qui tu es. C'est quoi ton fil conducteur dans le monde? Parce que si tu perds ça, alors tu tombes dans la démarche de Titus qui a pensé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, aller dans tous les sens, et qu'en fin de compte, ça l'a tué. Alors, il dit comme ça. Il dit, déjà, possiblement, on peut dire que des fois, Hachem, il envoie une idée sous forme d'un symbole physique et matériel. On peut très bien dire ça. Donc il dit, Hachem, il a voulu exprimer, il a voulu représenter la chose. Donc il a vraiment envoyé un moustique qui lui a rongé le cerveau. Mais il dit, mais même si tu dis pas comme ça, tu peux dire que Béhémet, c'est une force. C'est une force qui a influé. C'est-à-dire qu'en fait, le Maharal, il considère que la, et comme ça, on croit aussi que la réalité spirituelle, elle a un impact sur le matériel. Et donc cette force, il y avait une force qui l'a rongé. Et nous, on comprend ça même au plan psychologique. C'est-à-dire que quelque part, on sait, on croit savoir, on sait jusqu'à un certain point que le psychologique a une influence sur le médical. Ça, on le sait jusqu'à un certain point. Et donc, cette force-là, elle était à l'œuvre à tel point qu'elle est devenue physique. Le Ramchal, il dit que toute chose, elle commence à un niveau spirituel et au fur et à mesure, elle finit par découler sur le matériel. Donc, bien sûr que son cerveau, il a été rongé. Est-ce que c'était un moustique physique ou une force métaphysique? Ça, la discussion est ouverte. Mais le fait que son cerveau, il a été rongé, ça, c'est pas discutable. Et il dit, et ne prends pas en compte les paroles. Et là, le Maharal, il va lancer une tirade. Il va attaquer quelqu'un. Personnellement, pourquoi? Parce que juste avant, à l'époque du Maharal, il y avait en Italie un homme qui s'appelait Azaria de Rossi, qu'on connaît sous le nom de Azaria Mina Adumim, et qui a écrit tout un livre sur tout un livre sur les Ma'amaré Chazal, et ça s'appelle le Sefer Maor et Naïm. Il se permet de dire des fois que Chazal il raconte n'importe quoi. Et là-dessus aussi, il a dit plein de, voilà, un moustique qui devient aussi grand qu'un oiseau, etc., etc., etc. Il dit, ça, faut pas prendre ça en compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui respecte pas la vérité profonde des divrei Chazal, c'est quelqu'un qu'on ne prend pas en compte. Ça veut dire, et il dit comme ça, que même si tu acceptes qu'il n'y avait pas un moustique, mais pas juste qu'il y avait un moustique. Mais il faut savoir que Béhémet, son cerveau, il était détruit à cause de ça. Et cette force-là, c'est comme un moustique. C'est comme un moustique parce que le moustique, il vient, il perce la peau. Le moustique, il arrive, il perce la peau, il sépare la peau. Il vient, il coupe. Et donc, il y avait quelque chose en lui, un moustique réel ou un moustique métaphysique, une force métaphysique qui séparait son cerveau. Peut-être qu'aujourd'hui, on appellerait ça un cancer, peut-être, je ne sais pas.
En musique physique, ce serait un peu compliqué, non? Enfin, pour respirer dans une boîte crânienne, c'est un peu difficile, quoi. C'est-à-dire que le marais, il accepte que ça peut être un moustique physique, mais c'est plus mystère que ce soit
Alors,
quelque
il dit
chose de mon
non.
body, quoi.
Il dit déjà, les miracles sont possibles. Et des fois, les miracles sont nécessaires. Deuxièmement, on sait très bien qu'il y a des parasites qui survivent très bien dans le cerveau. Les amibes, alors, par exemple, ou encore d'autres. Il y a des créatures qui sont absolument capables de vivre, de parasiter le cerveau. Donc peut-être que ce moustique, je ne sais pas, peut-être c'est un petit moustique qui était capable, ou un larve de moustique, ou je ne sais quoi, qui était capable de parasiter le cerveau. Si on cherche une explication prétendument rationnelle, voilà. Non, il a voulu la vivre jusqu'à que ça le tue. C'est-à-dire que cette dualité-là, cette fait de vouloir aller dans tous les sens, ça a pris une forme physique et ça l'a tué pour le montrer qu'on ne peut pas vivre dans la dualité. C'est-à-dire que soit c'est de lui-même qu'il est mort, c'est cette force-là spirituelle qui portait en lui-même qui l'a tué, ou bien cette force-là a été tellement forte qu'elle a pris une forme physique. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Et ça, dans le Ramchal, il développe beaucoup que les réalités spirituelles, elles finissent par prendre une forme matérielle. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait pas mal pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça vous dérange pas? J'ai un peu une extinction de voix aussi, donc ça m'arrange. Ok? Razak.
On terminera quand même sur l'explication du col enfin, qui faisait avec l'instrument ou on passera à la suite.
Ce sera la suite. Et
Ok.
pour parler du col, il faut en avoir un et j'en ai pas.
Ça va. Et Raph Tom, merci beaucoup.
Raph, bonsoir.